Je voulais juste aussi, avant de commencer le message ce matin, vous parler de dimanche prochain. Vous savez que nous continuons notre étude de 1 Timothée. Et là, on va arriver à une section vraiment intéressante, 1 Timothée 4, que je vais intituler « L'apostasie. Pourquoi certains abandonnent-ils la foi ?» Et là, il est marqué clairement dans les premiers versets que certains abandonnent la foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, abandonner la foi? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on peut pas perdre son salut? Et comment expliquer? Peut-être on a tous connu des gens comme ça, qui étaient vraiment bien avec le Seigneur, et d'un coup, paf, ils disparaissent de la nature, et on s'interroge par rapport à eux. Donc là, on va aborder ce sujet la semaine prochaine. Mais avant ça, on va terminer le chapitre 3, et avant ça, j'aimerais donc m'incliner et prier. Et nous suivrons le message directement avec la Sainte Cène. Seigneur, merci pour ce privilège ce matin de pouvoir être ensemble, de pouvoir être ici pour te louer, Seigneur, et t'adorer, et te remettre dans la première place de notre vie. Pardonne-nous parce que si souvent, Seigneur, il est facile de nous écarter du droit chemin, Seigneur, mais tu es bon envers nous et ton amour nous appelle à revenir. Et Seigneur, comme le psalmiste a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et Seigneur, nous te demandons ce matin de nous enseigner à faire ta volonté, car nous voulons affirmer encore haut et fort que tu es notre Dieu. Et nous voulons, comme le psalmiste le dit, que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. Et donc ce matin, sonde-nous, ô Dieu. Regarde dans les profondeurs de notre cœur. Éprouve-nous, dirige-nous, Seigneur, corrige-nous et encourage-nous. Et merci encore une fois pour l'Église, Seigneur, l'Église qui est la tienne, le sujet de notre message ce matin. Seigneur, que nous puissions grandir dans notre amour pour l'Église, le corps de Christ. Seigneur, que tu sois glorifié dans cette Église locale. Et nous te remercions pour toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, écoutez, prenez vos Bibles et ouvrez-les à 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Et j'ai intitulé mon message « L'Église décryptée ». L'Église décryptée. Alors vous dites, mais pourquoi décryptée? Est-ce qu'elle est cryptée, l'Église? Eh bien, en quelque sorte, on pourrait dire que oui. Simplement parce que dans Éphésiens 3 et le verset 6, il est dit que ce mystère, donc il y a un mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc il y a un mystère, l'Église est un mystère, aujourd'hui nous avons les données qui nous démystérisent, je viens d'inventer un mot, qui font que c'est plus un mystère aujourd'hui, on comprend plus clairement ce qu'est l'Église, et dans ce sens-là, le texte de ce matin va nous aider à comprendre l'Église, et donc, dans ce sens, j'ai dit l'Église décryptée. Regardez 1 Timothée 3, versets 14 à 16. 14 à 16, juste trois versets ce matin. Je lis au verset 14, Paul écrit à Timothée et lui dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, dans ces quelques versets, nous avons, en quelque sorte, la nature de l'Église. Regardons en premier le contexte. Au verset 14, Paul écrit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Alors, nous sommes maintenant dans le troisième voyage missionnaire de Paul, chapitre 18 du livre des Actes. Paul quitte Antioche et il va à Éphèse. Et là, l'Église de Éphèse, donc en Turquie aujourd'hui, est fondée. De là, il continue en Macédoine, en Grèce, à Philippe, à Troas, et il va jusqu'à Milète pour discuter avec les anciens dans Actes chapitre 20. Ensuite, on lui dit qu'il ne faut pas aller à Jérusalem, mais il y va quand même. Il va à Jérusalem, mais ensuite, il se fait arrêter à Jérusalem. Il y a toutes sortes de fausses accusations qui sont lancées contre lui. On est au chapitre 21 du livre des Actes. Paul est saisi dans le temple. Il demande à parler à la foule. Et là, il se défend en donnant son témoignage à cette foule. Et ensuite, il est pris devant le Sanhédrin, c'est le conseil juif. Et là, il se défend devant eux au chapitre 22. Et finalement, il y a un complot contre lui. Donc, on l'envoie à Césarée. Là, il se défend devant Félix et Drusille, sa femme, et plus tard devant Festus. Et finalement, il fait appel parce qu'il réalise qu'il n'est pas en train de recevoir un juste jugement. Donc, il fait appel à César. Et tout citoyen romain avait le droit de le faire. Et donc, il est finalement envoyé à Rome. Et là, il est emprisonné à Rome. Et c'est pendant cet emprisonnement que Paul écrit l'épître aux Éphésiens. Il est plus tard libéré de Rome. Nous n'avons presque aucune information sur la suite des événements. Mais la plupart des commentateurs pensent que Paul a été relâché de prison à Rome pour un temps, après quoi il s'est fait remettre en prison. Donc il y a eu un temps entre ces deux emprisonnements. Et c'est entre ces deux emprisonnements que Paul retourne à Éphèse. Il parcourt la région et à un moment donné, il veut y aller. Il ne peut pas y aller. L'église à Éphèse est déjà fondée, ils ont déjà reçu la première épître, mais il y a des problèmes qui ont surgi dans cette église. Et donc Paul décide d'envoyer son jeune disciple Timothée à aller à Éphèse, et là il lui écrit 1 Timothée, plus tard 2 Timothée, pour justement l'aider à mettre de l'ordre dans cette église, et comme il a dit au verset 15, « Il saura, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et donc il va expliquer, par le biais de Timothée à l'église, comment ils doivent se conduire dans la maison de Dieu. J'aimerais vous montrer quelques images, si ça ne vous dérange pas, sur la ville d'Éphèse. Alors on les a peut-être déjà vues, mais comme ça, ça vous remet ces choses en mémoire. Donc voyez, Éphèse, bon, l'étoile est beaucoup plus grande que la ville en réalité, bien sûr, mais c'est pour vous montrer le positionnement sur l'ouest de la Turquie aujourd'hui. Et là, donc, là, vous avez la rue centrale d'Éphèse aujourd'hui, qui a été, au biais de l'archéologie, complètement découverte, avec la grande bibliothèque derrière, tout au fond. Et là encore, on voit des pavés qui restent de la route romaine. Vraiment, les Romains étaient des architectes hors normes. Et là, c'est la donc célèbre bibliothèque d'Éphèse, donc les restes, si on peut le dire ainsi. Et là, on voit vraiment le mur, la façade de cette bibliothèque, vraiment sur le carrefour central de la ville. Et on voit encore ces colonnes monumentales. Et ça, c'est le grand théâtre. Dans Acte 19, il y a eu l'émeute à Éphèse. Et donc ça, c'est le grand théâtre, on peut y aller. Et c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir aller voir où il y a eu cette émeute. Et Paul voulait y aller, mais les chrétiens ont dit non, si tu y vas, tu vas être lynché, donc il n'y est pas allé. C'est encore le théâtre qu'on voit. Et là, on le voit encore mieux, ce théâtre, depuis le haut. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion d'être vraiment tout en bas et de pouvoir lire le chapitre 19 de Actes dans le théâtre. Ça, c'était vraiment super. Et encore le théâtre. Et c'est toutes les images des fêtes que j'ai pour aujourd'hui. Mais ça vous met au moins dans le contexte. Donc, dans le contexte. Donc, c'est dans cette ville à qui Paul écrit cet épître pour essayer d'expliquer comment mettre de l'ordre dans cette église. Alors, dans ce texte, comme j'ai déjà dit, Paul va décrire l'église et il va utiliser 5 descriptifs. 5 descriptifs. Regardez, c'est tout simple. Je vais relire le verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. » Et maintenant, il va décrire l'Église. Premièrement, il dit « Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu ?» Premier descriptif, une maison. Une maison. Il décrit l'Église, premièrement, comme la maison de Dieu. Et le mot « maison » en grec veut tout simplement dire « maison ». Mais nous voyons aussi que ce terme peut parler d'une famille. Par exemple, chapitre 3, verset 4, parlant des anciens, il dit « Il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission ». Ben là, le mot « maison », il n'est pas en train de parler d'une maison, d'une bâtisse, mais plutôt de sa famille. Au verset 5, pareil, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Du même qu'il ne décrit pas le bâtiment d'une église, il ne décrit pas le bâtiment d'une maison, mais vraiment la famille. Et dans Tite 1, 11, le même mot est en fait décrit ou traduit comme étant « famille ». Donc c'est intéressant de noter L'Église est avant tout, et ça c'est important de le souligner, une famille, un groupe de personnes qui ont été touchées par la grâce de Jésus-Christ, qui par leur conversion sont devenues enfants de Dieu. Jean 1,12 nous le dit, « Mais tous ceux qui l'ont reçu parlant de Christ, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc lorsqu'une personne reconnaît son péché et accepte Jésus-Christ comme sauveur et seigneur dans sa vie par la foi, cette personne devient pour la première fois enfant de Dieu, qui veut dire qu'avant elle ne l'était pas. Donc elle rentre dans une famille qui sont maintenant enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, d'autres enfants de Dieu deviennent notre frère et notre sœur. Et dans ce sens-là, nous devenons une famille. Dans Éphésiens 2,19, il est dit ceci, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Donc, la famille de Dieu, c'est la maison de Dieu, et nous, en tant que convertis, nous faisons partie de cette maison de Dieu. Alors c'est intéressant, hein, dans ces deux versets, Paul décrit l'Église et il dit bien, il commence comme ça, il dit « c'est la maison de Dieu ». Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur Calvin aujourd'hui, puisqu'on est en train de célébrer le 500e de Calvin, et quelqu'un m'a envoyé une vidéo la semaine dernière, et j'écoutais, je regardais cette vidéo sur Calvin, et un des historiens disait que la grande différence entre Calvin et les autres auteurs théologiques à l'époque, c'est que Calvin a commencé l'institution chrétienne qu'il a écrite avec Dieu. Avec Dieu. Ce que Calvin voulait comprendre avant tout, c'était qui est Dieu. Et il n'a pas commencé en décrivant l'homme, comme font si souvent nos contemporains. Aujourd'hui, dans les églises, souvent on se pose cette question. Tiens, qui est l'homme et quel est son besoin ? Et comment pouvons-nous construire l'Église autour du besoin de l'homme ? Calvin dirait l'opposé. Lui dirait, qui est Dieu ? Et que veut Dieu ? Et comment doit être l'Église de Dieu ? Et comment l'homme va-t-il se soumettre à Dieu ? Comment l'homme va-t-il comprendre les directives de Dieu et se soumettre selon les directives qui sont dans la parole de Dieu pour pouvoir vivre en famille dans sa maison, sa famille? Donc, c'est vraiment une perspective très différente. Et c'est ce que nous dit le verset 15. L'Église est la maison de Dieu. Donc, ce n'est pas à nous, et ça c'est l'application, ce n'est pas à nous à décider, ni à inventer, ni définir comment doit être gérée l'Église. Non, nous devons commencer avec Dieu, nous devons commencer avec sa parole, voir ce qu'elle dit, et essayer de construire l'Église locale autour de ce que Dieu veut que soit l'Église. C'est pour ça d'ailleurs, étant une Église relativement neuve, que nous parcourons 1 et 2 Timothée pour pouvoir comprendre ce qu'est l'Église, parce que c'est le but de ces livres. Et je pense que c'est de cette manière que Dieu va bénir. Donc, premièrement, on a vu, l'Église est une maison, une famille. Deux. L'Église est une assemblée. Il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Alors, c'est le mot Église que j'aimerais qu'on note ici. Le mot Église, c'est le mot assemblée, ecclésia, duquel nous avons, littéralement, ekkaleo, un groupe de personnes qui ont été appelées hors de quelque chose. Littéralement, appelées hors de quelque chose. À Athènes, les ecclésias, c'était des groupes de personnes qui gouvernaient la ville. Dans la Bible, ecclésia décrit ceux qui ont été appelés par Dieu de sortir de l'esclavage du péché pour être rachetés et pardonnés par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix et qui ont été ensuite replacés dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu. Et ça, on le voit bien Dans 1 Corinthiens 12, où il décrit en fait ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, verset 12 de 1 Corinthiens 12, « Comme le corps étant à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il le Christ. Nous avons tous, nous, qui sommes nés de nouveau chrétiens, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, en Christ, et ça, on ne le voit pas, ce n'est pas visible, mais c'est ce qui s'est passé le jour où on a été appelés, où nous avons cru en Christ, nous avons été sortis de ce monde de l'esclavage du péché, nous avons été placés, libérés de cet esclavage, placés dans le monde de Jésus-Christ, qui est l'Église, qui est sa famille. Et cette Église, mes amis, elle appartient à qui ? Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu, ben c'est ce que le texte nous dit. Elle a été rachetée par le sang précieux de son Fils. Dans Actes 20, 28, il est dit « Prenez donc garde à vous et le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est un grand prix que Christ a payé pour nous racheter. Donc l'Église appartient à Christ. À Dieu, elle appartient à Dieu par le biais de son Fils Christ. L'Église est glorieuse. L'Église est en croissance continue, nous dit Actes 5, 14. L'Église est pour tout le monde, qu'on soit juif, esclave, païen, autre, tous les hommes peuvent venir à Christ et faire partie de l'Église. L'Église doit être nourrie, nous venons de le voir, nous devons paître l'Église de Dieu. Et nous savons aussi que l'Église, tôt ou tard, sera persécuté. 1 Timothée 2, 14 nous dit « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Les églises, tôt ou tard, vont être persécutées. Je pensais encore à 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous faisons partie de l'Église. Alors, il y a l'Église universelle composée d'églises locales dont nous faisons partie. Nous sommes une Église locale. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit que c'est, regardez dans le verset 15, qui est l'Église du Dieu vivant. C'est quand même un petit détail intéressant, je trouve. D'accord ? Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu est le seul vrai Dieu, le seul Dieu qui est vivant, car il n'y a qu'un Dieu, Deutéronome 6 nous dit. Un Dieu, et ce Dieu est vivant, et ce Dieu a un Fils, Jésus-Christ. Et donc, l'Église à laquelle nous appartenons est l'Église du Dieu vivant. Pourquoi cette appellation ? Bien parce qu'à Éphèse, il y avait beaucoup d'idoles. Beaucoup d'idoles. Et Paul rappelle à l'Église que les idoles sont morts, mais que leur Dieu était vivant. 3. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Troisième descriptif de l'Église, une colonne. En fait, la colonne de la vérité. Alors, vous dites, mais pourquoi est-ce que Paul décrit l'Église comme une colonne ? Aha ! Alors, nous, on le comprend peut-être pas, parce que nous, on n'est pas à Éphèse. Mais si on habitait à Éphèse, on avait reçu cette lettre, tout de suite, on aurait compris, aha ! Je comprends de quoi parle Paul ici. Car il faut savoir qu'à Éphèse, il y avait un temple, le temple colossal qui existait à Éphèse, le temple de Diane. J'aimerais vous montrer une photo. D'accord ? Alors ça, c'est une reconstruction, bien sûr. Et ce temple de Diane, c'était une des 7 merveilles du monde ancien. Alors, il y avait Diane. Diane, c'était une déesse, je sais pas, je crois qu'il y a une photo, c'est la deuxième ou la troisième ? Alors ça, c'est la déesse Diane. C'était une des divinités la plus célèbre du paganisme, Artémis, où Diane était la déesse grecque de la chasteté et de la chasse, et ses nombreuses mamelles symbolisaient sa fertilité. Donc c'était une idole, et les gens adoraient cette déesse dans le temple. Maintenant on va repasser de nouveau au temple. Et ça, c'est le temple qui a été construit pour adorer Diane ou Artémis. C'était une des sept merveilles du monde ancien. Sa construction débuta en 560 avant Jésus-Christ et termina en 440 avant Jésus-Christ, donc une construction qui a duré 200 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce temple était quatre fois plus grand que le Parthénon à Athènes. Il avait 153 mètres de long et 237 mètres de large. L'extérieur était décoré de tout ce que la nature et l'art offraient de plus précieux, or, argent, pierre, tableaux, statues, tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors regardez les colonnes. Il y avait en fait 127 colonnes en marbre qui mesuraient chacune 18 mètres de haut. Et chacune de ces colonnes avait été érigée par un roi et embellie par des pierres précieuses. Donc chaque roi avait sa colonne. Et lui embellissait sa colonne comme il le voulait. Donc on peut imaginer que c'était une concurrence pour voir qui pouvait faire le meilleur job pour vraiment décorer sa colonne. Mais alors, quel était le but de ces colonnes? Alors il y avait bien sûr un but de soutenir le temple, ça on peut le comprendre. Mais il y avait un autre but, c'était celui d'honorer chaque roi qui avait dédié une colonne. Et puisque dans le prochain descriptif, dans notre verset, on peut encore laisser cette image, d'accord? Le prochain descriptif, c'est l'appui. Hein, il dit la colonne et l'appui de la vérité. Donc, on va regarder ça dans quelques minutes, l'appui parle vraiment de quelque chose qui soutient le temple. Donc, on a l'impression ici qu'il utilise le mot colonne plus, disons, moins pour la solidité et plus pour l'honneur. Plus pour l'honneur. Alors, il est en train de dire que l'Église est la colonne de la vérité. Dans le sens que la colonne, donc l'Église, met en valeur la vérité. Elle élève la vérité comme on érigerait une statue ou une colonne ou ce temple. Ces statues mettent en valeur, émerveillent le monde par ces colonnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le monde regarde à l'Église, alors ça c'est très pratique, lorsque les gens nous regardent, alors on est dans un hôtel, il n'y a pas de colonne ici, d'accord? On est dans un hôtel. Mais lorsque les gens nous regardent en tant qu'Église locale, la famille de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau en Christ, nous qui sommes une famille, lorsque les gens nous regardent dans notre Église locale, ils devraient voir la vérité élevée, la vérité montrée, la vérité criée, la vérité affichée, visible dans toute sa splendeur pour que tout le monde la voie. Alors, ce temple, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, tenez-vous bien. Il reste qu'une colonne. J'ai pris une photo de cette colonne. Tac, la voilà. C'est tout. C'est tout ce qui reste. Il y a eu des incendies, ensuite des tremblements de terre. Puis finalement, toutes ces pierres ont été un jour utilisées pour une carrière. Et ils ont pu reconstituer une colonne à Éphèse. Et je trouve quand même intéressant qu'il n'y a plus une seule, enfin, il y a une seule colonne qui reste du temple d'Artémis, mais l'Église ne s'est pas arrêtée de se propager et de se multiplier autour du monde. Rien ne peut arrêter l'Église de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Rien ne peut l'arrêter. C'est la parabole du Senevé dans Matthieu 13. C'est un petit grain, mais ensuite ça devient un arbre dans lequel les oiseaux peuvent habiter. Il est en train de dire que rien ne peut arrêter l'Église d'avancer. Rien. Alors c'est quoi cette vérité? Nous sommes la colonne de la vérité. Les gens devraient voir... Enfin, c'est marrant, on pourrait le dire comme ça. Chacun de nous, c'est comme un pilier. Toi, t'es un pilier, toi, t'es un pilier, t'es un pilier, t'es un pilier, t'es un pilier. On est tous des piliers. Et tous ces piliers ensemble devraient montrer et révéler la vérité. Ben, c'est quoi cette vérité? Ben, Jean 14, 6, c'est peut-être la définition la plus simple. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Waouh! Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voulez un descriptif de ce qu'est la vérité? Jésus-Christ, dans toute sa vérité, est la vérité. Jésus-Christ, comme il est révélé, montré dans la parole de Dieu, est la vérité. Il est l'incarnation de Dieu, né d'une vierge. Il a vécu 33 et quelques années sur terre. Il a fait des miracles pour montrer qu'il était vraiment divin. Il n'a jamais une fois péché. Et lui, mort à Golgotha, mort sur la croix, à notre place, ayant pris sur lui notre péché, à notre place. Mort et ressuscité. Jésus-Christ Dieu incarné. Voilà la vérité. Lui est venu pour nous pardonner de nos péchés et l'offrir au monde entier. Alors, c'est une bonne question. On en est où, nous? Est-ce que les gens qui nous regardent disent « Ah, dans cette église, la vérité est honorée, la vérité est élevée. Je vois des colonnes qui élèvent la vérité de Dieu. » Quatre. Un appui. L'église est une maison, une assemblée, une colonne et quatre, un appui. Alors, ça c'est très intéressant, c'est ce qu'il dit, hein, ici. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est un mot utilisé que ici dans le Nouveau Testament. Et on a l'impression que, architecturellement, ça décrit ce qu'on appelle un contrefort. Alors, c'est quoi un contrefort? Ben, écoutez, je vais vous le décrire, mais j'aimerais vous le montrer, ce sera plus simple. Alors, on va montrer un contrefort. Alors, ça, vous reconnaissez ces cathédrales? Paris, d'accord? Paris, Notre-Dame à Paris. Et cette partie à l'extérieur, parce qu'il y a peut-être un autre nom, mais moi, est-ce qu'il y a un autre nom que vous connaissez que contrefort pour cette partie de la cathédrale? Eh bien, alors, je vais vous lire ce que j'ai, d'accord? Contrefort est un renfort de maçonnerie, saillant et massif, élevé sur la face extérieure d'un bâtiment, voûté, et qui sert à contenir les effets d'une charge ou de la poussée des arcs et des voûtes. Les contreforts sont typiques de l'architecture romane, qui ont fait un large usage de ces éléments architecturaux associés à l'arc en plein cintre pour soutenir les murs des nefs qui avaient à supporter les hautes voûtes. En deux mots, ce que ça veut vraiment dire, c'est que cette partie, ces contreforts, retiennent cette cathédrale de s'effondrer. Donc c'est vraiment quelque chose qui soutient. Et c'est pour ça que le mot est très bien choisi dans nos Bibles, appui. C'est un appui. Quelque part, les murs s'appuient contre ces contreforts et donc permettent qu'elles restent debout. Alors maintenant, pensez-y. Il est temps, tu peux montrer la deuxième aussi si tu veux. Voilà, ça on le voit encore, c'est un autre style de contrefort. Donc maintenant, chaque fois que vous irez voir une église, vous dites « Ah, regarde un contrefort !» Et tu pourras tout de suite penser à Timothée 3 et le verset 15, parce que là, il y aura un exemple, et tu peux ensuite annoncer l'évangile à la personne avec qui tu es dans la voiture, d'accord? Par rapport à ce petit détail. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que l'Église est représentée ici comme la partie qui soutient la vérité, pour que cette vérité ne s'écroule pas, mais qu'elle reste debout et visible. C'est intéressant, vous trouvez pas? Je sais pas, moi, je vous ai déjà vu Notre-Dame, quand vous allez à Paris et vous voyez Notre-Dame, la première fois qu'on voit Notre-Dame, on ne dit pas « Waouh, regarde les contreforts !» C'est pas ce qu'on va dire. Non, qu'est-ce qu'on va dire? « Waouh, c'est incroyable, regarde la cathédrale !»« Regarde la vérité !» Puis ensuite, tu te rapproches de la cathédrale et tu dis « C'est incroyable, ces contreforts qui font que cette cathédrale puisse rester debout. » Ensuite, on voit le détail. Et alors les gens, en voyant l'Église, auraient dit « C'est incroyable, la vérité qu'on entend et qu'on voit dans cette Église. » Ah oui, et regardez, c'est cette Église qui soutient cette vérité. Nous sommes l'appui de la vérité. C'est beau, non? C'est des images très fortes, très très fortes. Nous avons un rôle très important à jouer dans notre société, mes amis. Surtout dans une société aujourd'hui qui n'est pas intéressé par ces choses. Alors, oui et non. Les gens sont à la recherche de la vérité. Moi, je crois que les gens sont vraiment à la recherche de la vérité, mais il y a tellement d'options. Est-ce que ce que nous leur proposons tranche? Est-ce que c'est clair? Ça devrait l'être. Il ne devrait y avoir aucune confusion par rapport à ces choses. Alors, l'Église, c'est quoi? Eh bien, cinquièmement, c'est une maison, premièrement, une assemblée, une colonne, un appui, cinquièmement, un message. Et ça, c'est le verset 16. Il dit aussi au verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Alors, bien sûr, il faut se poser la question, mais c'est quoi cette vérité alors? C'est quoi cette vérité que l'Église doit communiquer, que les gens doivent voir? Eh bien, comme j'ai déjà dit, hein, si on devait vraiment réunir ou disons, comment dire, résumer cette vérité en un mot, ce serait Jésus, puisque Jésus a dit « Je suis la vérité ». Mais le verset 16, dans un hymne, c'est un hymne que l'Église primitive, apparemment, comme une sorte de confession de foi qu'ils avaient adoptée, ont résumé quelque part l'essentiel. Il dit « Et sans contredit ». Littéralement, voici les vérités centrales sur lesquelles tout le monde est d'accord. Voici sur quoi chaque église dans le monde entier devrait être d'accord. Ça, sur ça, oui. Le mystère, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Alors c'est intéressant, lorsque les gens ont entendu ça, dans leur contexte, vous vous rappelez dans Acte 19, lorsqu'il y avait l'émeute et ils étaient dans le grand théâtre, qu'est-ce qu'ils disaient ? Grand Édiane, grand Édiane. Pendant 2 heures, ils disaient grand Édiane, grand Édiane. Ben Paul, il dit, attends, excuse-moi là, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Non, Dieu est vivant, Diane est morte. Et donc ils auraient fait le lien. Ce mystère, c'est la vérité cachée. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot décrypté. Le fait que tout le monde, maintenant, a accès à ce salut en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? 6 phrases parallèles et rythmées, indiquant que ceci, vraiment, est le cœur central, quelque part, de l'Évangile. Regardez, c'est très bref et très simple. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 1. Dieu a été manifesté en chair. Alors, les meilleurs manuscrits semblent ne pas avoir le mot « Dieu » tel quel, mais plutôt « il ». De toute façon, c'est une référence à Christ. Dieu a été manifesté en chair. Christ est devenu un homme. Regardez, Dieu est devenu un homme. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Dieu, la parole, et verset 14 nous dit quoi ? « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous ». Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc premièrement, et ça c'est le point central, Dieu est devenu un homme. Il a été fait chair, manifesté en chair. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 4:15, qu'il était sans péché, c'est normal. Dieu est sans péché, il devient homme, il est homme sans péché, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc Christ est Dieu incarné sans péché. C'était la seule manière qu'il pouvait nous pardonner notre péché, en prenant sur lui notre péché, mais il fallait que lui soit sans péché pour pouvoir le faire. Moi, je ne peux pas prendre la condamnation de quelqu'un d'autre si j'ai la même condamnation. Deuxièmement, il a dit qu'il a été justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Alors, il y a 2 possibilités. Ça pourrait être une référence au Saint-Esprit. Et de ce fait, la phrase dirait « Par le Saint-Esprit, Jésus a été justifié dans le sens de prouver sa justice et sa sainteté parfaite et la validité de ses revendications en tant que fils de Dieu ont été parfaitement établies et prouvées par le Saint-Esprit. » Et ça, c'est juste. C'est exactement ce qui s'est passé. Romains 1:4, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus-Christ, c'était la preuve finale et totale de la divinité de Jésus-Christ. L'autre possibilité, c'est que l'Esprit est une référence à l'Esprit de Jésus, donc sa propre personne. Cela voudrait dire que son Esprit divin, donc la divinité de Jésus, a prouvé, si l'on veut, qu'il était divin. Alors ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que chaque fois que Jésus a fait un miracle, sa divinité a éclaté. Et de plus, puisqu'il était sans péché, sur ces 2 points, il a prouvé qu'il était fils de Dieu. Donc, Dieu est devenu homme et il a été prouvé divin sur terre. Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les gens cherchent des preuves aujourd'hui. Lis la vie de Jésus, prends un évangile et regarde tous les miracles qu'il a faits. Vois sa gloire. 3. Il a été vu des anges. Vu des anges. Alors ça, c'est aussi intéressant. Si vous lisez le récit de Jésus, nous voyons des anges à sa naissance, dans Luc 2. Vous vous rappelez ? Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Elle sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. Ce qui est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Déjà à sa naissance, des myriades d'anges apparaissent. Lors de sa tentation, des anges viennent l'aider. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce petit détail. Dans Matthieu 4, 11, alors, le diable laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Il est dit dans Pierre 3 qu'il est descendu dans les parties inférieures, annoncé aux anges déchus sa victoire sur eux. À sa résurrection, des anges ont apparu, vous vous rappelez ? Et même à son ascension. Lorsqu'il est monté au ciel, dans Acte 1 et le verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez-vous au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Eh oui. Il a été manifesté en chair, justifié ou prouvé par l'Esprit, vu des anges. Et tout ça pour montrer que la venue de Jésus n'était pas la venue comme un homme normal. Vraiment, le Sauveur, Dieu incarné. Des anges, dans tout son ministère, étaient là pour confirmer cette vérité. Et regardez, il a été quatrièmement prêché aux nations. Et c'est juste avant de monter au ciel, après sa résurrection, Jésus donne ce dernier mandat dans Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples » les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 18 dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire quoi ça? Alors, si quelqu'un dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Je crois que ce n'est pas très compliqué. Il est en train de dire, « Je suis Dieu. J'ai tous les pouvoirs. J'ai le pouvoir où? Dans le ciel et sur la terre. » Prochain verset, « Allez. » Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'on doit leur dire. Nous devons aller dans le monde entier et dire au monde entier, Jésus a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Repends-toi, viens à Christ et sois sauvé, rentre dans sa famille. Voilà le message. C'est pas compliqué. C'est le message auquel nous sommes appelés à annoncer dans le monde entier, à toute personne. Donc, il est prêché aux nations. Et regardez, ça c'est pour terminer, le cinquième point, il a été cru dans le monde, pas à l'avant-dernier point, cru dans le monde. Oui, parce qu'au fur et à mesure de prêcher l'évangile, eh bien les gens croient à l'évangile. Ils croient à l'évangile. Moi ce que j'aime avec notre église, c'est qu'on me dit, je savais qu'il y avait 30 nationalités, on me dit qu'il y en a 40 maintenant. 40 nationalités dans notre église. Ça veut dire que nous avons des représentants de 40 pays du monde. Pour moi, je trouve ça génial. Parce que ça, c'est quelque part, c'est une preuve ou une illustration de cette vérité. Crue où ? Dans le monde. L'évangile est pour le monde entier. Toute personne. Et c'est pour ça, mes amis, que toute personne qui choisit de venir dans cette église, nous devons les accueillir à bras ouverts. De quelque pays qu'ils soient. Car l'évangile est pour le monde entier. Et il est cru dans le monde entier. Et c'est intéressant que dans Apocalypse 5, si vous ne croyez pas que c'est vrai, voici un coup d'œil dans le ciel, verset 9 d'Apocalypse 5, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre ce livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur terre. » Ah, écoutez, c'est beau, non? N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile, il est pour tout le monde. Tout le monde. N'ayons pas peur de l'annoncer. Et finalement, il a été élevé dans la gloire. Simplement qu'une fois que son œuvre a été accomplie sur terre, mort, ressuscité, il a offert le pardon du péché par son sacrifice. Lorsque l'évangile a été propagé dans le monde, lorsque les gens ont cru pour être sauvés, eh bien, il a été repris dans sa gloire. Repris dans sa gloire. Il est monté physiquement vers le Père. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, dans 1.11. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, parce qu'il dit au verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Donc ils étaient là, et tout d'un coup, ben voilà, Jésus a commencé à monter, il a fait une sorte de lévitation, je peux le dire ainsi, mais il a commencé à monter physiquement, et tout le monde regardait, il est monté, il est monté, il est monté, ensuite les nuages, dans les nuages, tac, il a disparu. Ils étaient tout seuls, ils étaient complètement étonnés. Ils disent, mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Je vois Jésus là décoller dans les nuages, il monte dans le ciel. Alors on peut quand même comprendre leur perplexité. Hein. C'était avant Hollywood, avant tous les films, avant qu'on peut même imaginer ces choses aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien d'imaginable comme ça. Donc ils voient ça vraiment monter, et c'est pour ça que Dieu envoie des anges. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils pensaient qu'ils rêvent. Et bien pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, mais homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Et ensuite, c'est ce qu'il dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il va revenir de la même manière, c'est-à-dire comment? On va le voir physiquement. Et oui, c'est notre grande espérance, mes amis. Alors voilà l'Église décryptée. L'Église décryptée. Où est-ce que nous en sommes? Une maison? Une assemblée, une colonne, un appui et un message. Il y avait une vieille église en Angleterre avec un écriteau qui disait « Nous prêchons Christ crucifié ». Donc ça, c'est un peu dur pour nous parce qu'on n'a pas vraiment de local, d'accord? Imaginez qu'on avait un local, enfin, c'est une église. Et « Nous prêchons Christ crucifié ». Et après un certain temps, le lierre a fini par recouvrir le dernier mot, ne laissant plus voir que « Nous prêchons Christ ». Et le lierre a continué de pousser. Et bientôt, on ne voyait que « Nous prêchons ». Et le lierre a continué à pousser. Et bientôt, on ne voyait que plus « Nous ». Et le lierre a continué à recouvrir l'écriteau en entier. Et puis un jour, l'église est morte. Et c'est probablement le sort de toute église qui refuse d'exécuter la mission dans le monde qu'il a été donné par le Seigneur. Alors nous, on est une église qui démarre. J'espère que cette histoire n'aura jamais lieu pour nous. Écoutez, on va juste terminer le culte avec la Sainte-Cène ce matin. J'ai tout dit, je crois. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que nous avons compris ce pourquoi nous sommes là. Nous comprenons le but de l'église, le message que nous avons été appelés à annoncer autour de nous. Si aujourd'hui vous êtes un bénéficiaire de ce message, vous dites, moi c'est clair, moi je suis dans la famille de Dieu. Dieu m'a touché, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a offert son salut. Pour moi c'est clair, je suis dans la maison de Dieu, je fais partie de la famille de Dieu. J'espère que ma propre vie, je suis une colonne de la vérité, un appui pour la vérité. Et je crois être fidèle au message. Si ça c'est toi, tu es invité à prendre la Sainte-Cène ce matin. Cette Sainte-Cène, c'est un rappel de la mort et de la mort de Jésus-Christ. Son corps, son sang nous a été offert pour le pardon de nos péchés. Si tu ne connais pas Christ, tu as deux options. Tu peux croire en Christ maintenant ou laisse passer les éléments. Parce que la Bible dit que de boire ces éléments sans connaître Christ ou sans avoir vraiment réglé les problèmes de péché dans ta vie, ce serait comme boire un jugement contre toi. Et les conséquences pourraient être terribles. Prends quelques instants pour mettre ton cœur droit devant Dieu.